Alors, vous le voyez partout sur le globe, la nouvelle continue de faire jaser, surtout suite à la réaction du président russe aujourd'hui, Vladimir Poutine, d'autoriser les athlètes russes à aller performer lors des prochains Jeux d'hiver qui auront lieu en Corée du Sud. Les réactions sont nombreuses, ici au pays également. Avec nous, médaillé d'or au boss aux Jeux olympiques de Lillehammer en Norvège en 1994, nul autre que Jean-Luc Brassard. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Mario.
Toi qui te prépares d'ailleurs tranquillement à faire le voyage vers la Corée du Sud où tu agiras encore comme analyste pour les épreuves de ski acrobatique, de bosse et de saut.
Oui, c'était une décision plus difficile cette année parce que je suis, moins fervent que j'étais de la compétition olympique. Et ce qui a fait pencher la balance pour que j'y retourne, c'est parce que les Jeux olympiques, malheureusement, restent encore une des rares compétitions où je peux commenter mon sport en direct. Malheureusement, il n'y a plus d'antenne pour ce sport-là. Comme j'en ai déjà parlé dans les dernières années, alors c'était le tremplin pour pouvoir continuer à le publiciser, à mettre en valeur les talents d'ici. Donc, j'ai accepté de le faire, mais visiblement, même avec l'annonce que le comité en a fait hier, là, je reste quand même assez régulièrement en désaccord avec certaines positions olympiques.
Ben justement, revenons-y à tes réactions pour les gens qui n'ont pas lu tes propos probablement dans le journal ce matin notamment. Comment tu réagis à cette annonce de bannir la Russie, mais d'autoriser les athlètes à participer aux épreuves?
Ben moi, ce que je mentionnais, c'est que c'était vraiment le strict minimum à faire. D'ailleurs, je citais le journal Le Monde qui, en tête, a écrit le CIO bannit la Russie, mais accueille ses athlètes. Alors, c'était vraiment une habile manipulation politique d'un problème que personne ne veut vraiment adresser. Et une des raisons, c'est sans doute une espèce d'amitié ou de complicité entre le président Poutine et le président Bach. On l'a vu à de nombreuses occasions avant et pendant les Jeux de Sochi en Russie. Alors, les incriminations contre la Russie étaient flagrantes. D'abord, le rapport McLaren qui a été commandé suite à la défection d'une athlète qui a dit qu'est-ce qui se passait en Russie. On ne l'a pas cru. Et ce qu'on a trouvé de mieux à faire avec cette athlète russe, c'est elle qui faisait connaître au monde un scandale d'une ampleur inégalée. Mais la seule chose qu'on a trouvé à faire, c'est de la bannir des Jeux de Rio. Alors ça, déjà numéro un, bravo. Et ensuite, eh bien, avant les Jeux de Rio, ben suite à ce rapport McLaren qui incriminait vraiment de façon sans équivoque le système étatisé de dopage russe, dont des mesures absolument surréalistes de passer des flacons d'urine, des échantillons qui avaient été perçus là, auprès des athlètes, alors de les échanger par des trous dans les murs. Écoute, ça s'invente pas, ça c'est quand même assez extraordinaire, et de remplacer tout ça. Alors, ben, ce que le président du Comité olympique international, BAC, a trouvé de mieux à faire, c'est de dire on va laisser les fédérations décider ceux qui doivent aller aux Jeux ou non. Alors, quand on parle d'un manque de leadership, là, c'était vraiment la leçon 101. À mon avis, ça partait de là. Moi, j'étais très déçu de ça. Ensuite, faut pas oublier que dans cette histoire de dopage russe, ben, il y a aussi ce fameux... certains diront Vir Capo, là, qui le responsable du laboratoire du dopage russe, son nom m'échappe, là, russe, qui a fait défection aux États-Unis. Mais faut pas oublier que les numéros 2 et 3 ont été assassinés là, en Russie. Si on l'oublie, ça passe dans les faits divers. Mais il y a quand même deux personnes qui étaient en charge ou tout à fait au courant du dopage étatisé qui ont été assassinées. On ne parle pas de joke, là. C'est quand même deux meurtres qui ont lieu par rapport à ça. Et finalement, le président Bach décide de mandater deux Suisses, parce que là, l'Agence mondiale antidopage, c'est M. Dick Pound à Montréal. Alors, on mandate un avocat canadien, donc les Nord-Américains. Mais il ne faut pas oublier qu'en quelque part, là, le Comité international olympique sont bien contents d'avoir les dollars de NBC, mais ils ne sont pas trop contents de voir les Nord-Américains trop s'infiltrer là, dans la manière de fonctionner du comité olympique aux alentours du lac Le Mans à Lausanne. Alors, le président Bach mandate deux Suisses, souhaitons-le au-dessus de tout soupçon, qui, contre toute attente, arrivent aux mêmes conclusions que McLaren. Donc, il faut faire quelque chose, que le juge McLaren. Il faut faire quelque chose, et finalement, on prend cette sanction où on fait sauter la tête de 3-4 dirigeants russes qu'on s'en balance. On effleure plus ou moins le président Poutine parce qu'on dit ouais, il était pas au courant, c'est pas de sa faute. Et on demande de rembourser une dizaine de millions sur des programmes que le CIO avait mis sur des athlètes russes. Le CEO vient de donner 1 milliard aux Jeux de Los Angeles pour la présentation. Ça fait que 10 millions, on s'entend qu'ils vont probablement s'acheter une coupe de cure-dents avec ça. Et puis, ben, par la suite, on dit, ben voilà, les athlètes vont pouvoir aller, non pas sous le drapeau russe, mais sous le drapeau olympique. Il y a une tournure de phrase sympathique là-dedans, là, le drapeau olympique sous l'égide d'athlètes russes ou quelque chose comme ça. Alors, ça change absolument rien. Et ensuite, probablement dans une belle entente, le président Poutine a dit, ben oui, mais moi, je vais boycotter ou je vais faire ta-ta-ta. Et là, aujourd'hui, on a dit, ben non, je vais les laisser aller. Effectivement, parce que tout a gagné de voir des athlètes russes essayer de bien performer au jeu, puisqu'après ça, ils peuvent facilement se retourner et dire, hey, le monde, regardez, il n'y avait rien là dans vos accusations. Donc, c'est une jolie tournure politique qui, à mon avis, en tout cas, à ma grande surprise, ça semble réjouir le monde entier. J'ai vu
des tweets
d'athlètes là qui disent ah c'est fantastique
un grand pas dans la bonne démocratie. Direction puis tout ça puis il a été habile puis effectivement j'allais te demander comment tu réagis à ces réactions ma foi favorables à la décision.
Moi je suis tellement déçu de tous ces athlètes là et je me dis mon Dieu êtes-vous toutes dans cette secte olympique là à ne plus en voir clair. Parce que, bien sûr, c'est une décision et la tendance des gens, c'est de dire ben les pauvres petits athlètes russes qui sont innocents vont être bannis des Jeux. Mais là, il faut mettre les choses en perspective. Et l'article de la presse ce matin, sous la plume de Simon Drouin, je lui avais dicté ce propos tel quel hier, je lui avais dit, écoute, en 1988, aux Jeux de Calgary, Pierre Hervé finissait 45e ou 50e après avoir gagné des Coupes du monde de ski de fond, dont deux en sol norvégien, où il s'était mérité, entre autres, l'éloge du roi de Norvège, qu'il avait invité à souper avec lui, rien de moins. Et une fois rendu au jeu, il finit 45-50e parce que les athlètes se faisaient shooter puis piquaient au bon moment lors des Jeux de Calgary. Ça, c'était il y a 30 ans. Et là, l'ironie du sort, c'est qu'en 2018, son garçon, Alex Hervé, et pogné avec des dopés en Norvège aux premières étapes de Coupe du monde de la saison. Et ça fait 30 ans, et il ne sait rien. Il n'y a aucune différence là, entre les deux. Là. Alors, en 30 ans, on n'a absolument pas progressé. Oui, les méthodes de dopage ont progressé, elles, les méthodes de détection ont progressé, mais la base, là, la philosophie du problème, elle, n'a pas changé encore en 30 ans. Et donner une petite claque ses doigts en disant, ben, on va bannir un petit peu, pas trop sûr, mais il faut pas que ça fasse trop de bruit, puis là, on acclame le mouvement olympique. Moi, je trouve que c'est vraiment manquer de discernement, puis c'est surtout de manquer de respect, parce qu'on dit les pauvres petits athlètes russes, mais chaque fois que des athlètes russes ou d'autres pays ont volé des positions, dont des podiums et des médailles à différents Jeux olympiques, ben ce sont nos pauvres petits athlètes canadiens et autres petits athlètes d'autres pays qui ont été obligés à l'anonymat à cause de tricheurs. Et ça, personne n'en parle de ces gens-là. On a juste de la pitié pour nos pauvres petits athlètes russes qu'on connaît en ce moment. Et j'en connais des athlètes russes contre qui j'ai compétitionné. Et ça me fait de la peine de penser qu'ils seraient bannis. Mais à un moment donné, les règles, elles sont claires pour tout le monde. Et si moi, je les ai suivis dans ma carrière, et si d'autres les ont suivis, pourquoi ces athlètes-là ne les suivraient pas, tout simplement? Moi, j'aurais voulu une décision beaucoup plus sentie, beaucoup plus obligée, et surtout de la part d'une organisation comme le Comité international olympique, qui voit ses demandes de candidature être bafouées à coups de référendum en Europe, parce que les gens n'en veulent plus de ces jeux qui coûtent les yeux de la tête et qui obligent, qui donnent tout l'argent au Comité olympique et qui laissent les villes avec les dettes des infrastructures. Alors, quand on parle d'une marque de commerce qui perd la vitesse, ben là, le CIO en est le parfait exemple. Et avec des décisions aussi molles, qui ont l'apparence de décisions dures, parce qu'on s'adresse à la Russie et on a peur de la Russie, mais justement, la Russie a le bon jeu, il joue là-dedans à 100 000 à l'heure. Alors, ben, c'est une marque de commerce qui, tant qu'à moi, perd beaucoup de plumes et d'autant, et c'est là où ça nous touche directement en tant que Canadiens, c'est que nos programmes de financement de sport dit amateur, ou presque tous les sports canadiens, même le hockey, disons, non professionnel au Canada, alors, le financement de ces sports-là découle d'un organisme qui s'appelle Annule Podium, On the Podium. Écoute, ça, c'est la grosse affaire, là, que c'est du jamais vu dans l'humanité. Alors, on part de On the Podium, qui, eux, basent uniquement ou presque uniquement leurs critères de financement de nos sports nationaux et de nos équipes nationales basés sur les résultats olympiques. Sauf que, si vous arrivez 10e en tant qu'athlète canadien, au lieu d'arriver premier parce que vous êtes battu par 9 athlètes dopés, Mais la onde de podium va dire, ben, mettons, en aviron, ils sont 9e, ils sont pas premiers ou ils sont 10e. Ça fait que le financement montre que les programmes ne sont pas à point. Donc, non seulement on n'augmente pas le financement, mais on le coupe. Alors, c'est jamais vu, notre propre financement est basé sur un événement. Et là, je crée une parenthèse. Imaginez un planificateur financier qui vous suggère l'achat d'actions basé sur une journée dans la vie active au sein d'une bourse de cette action, en disant, mais regardez, le 12 février 1989, l'action a topé à 100 $, le plus haut point jamais atteint. Mais il ne nous parle pas que le reste de l'année, elle vaut 1$, là, mais cette journée-là a valu 100$. Jamais un analyste financier va nous suggérer d'acheter ce type d'action à ce prix-là, parce que c'est basé sur simplement une journée, ça prend des échéances d'un an, 6 mois, 3 mois, peu importe. Alors, nous, notre système sportif dans lequel le gouvernement investit plusieurs millions de dollars, évidemment, ben, est basé sur une compétition, les Jeux olympiques, une compétition dont finalement, lorsqu'on regarde en rebours avec l'exemple de Pierre Harvey, on apprend qu'au cours des 30 dernières années, tout le monde était dopé. Alors, on finance les mauvaises affaires, finalement. Et moi, je suggérerais fortement à Onde de Podium, s'ils veulent continuer à fonctionner de la sorte, de se baser sur le cumulatif de la saison, les résultats de Coupe du Monde, l'ensemble de la saison, parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être dopé pour 6 mois de compétition que pour simplement un one-shot deal comme les Jeux olympiques. Et comme ça, on aurait vraiment l'heure juste sur la vraie valeur des athlètes et non pas sur un événement qui, de toute façon, peut être faussé pour des raisons météorologiques. Si vous faites une course d'aviron puis ils vendent à 50 km/h, c'est pas le meilleur qui va gagner, c'est celui qui est le mieux placé dans le meilleur corridor à l'abri du vent. Même chose avec des courses de ski alpin. À Sochi, à plus 10 degrés Celsius, ça va être un excellent skieur de Coupe du Monde qui va gagner. Est-ce que c'est le meilleur sur le circuit régulier, celui qui performe sous toutes les conditions et tous les types de courses? Mais probablement pas. Alors, on sait tous, on a tous fait l'inverse du gros bon sens, c'est mettre tous nos œufs dans le même panier. Les fédérations sont allées boire, sont allées manger dans la main de l'Olympiste, qui, elle, dicte ses règles, règles qui sont souvent faussées. D'autant qu'il faut prendre en considération qu'en voulant s'internationaliser à l'extrême, en montrant patte blanche et comme des tendances de l'ONU, ben le CIO, qui soit dit en passant est une entreprise privée opaque, dont personne n'a le droit d'aller voir les chiffres, les livres, les bilans, peu importe. Alors, en voulant s'internationaliser, ben le CIO fait aussi appel à des gens de tout acabit, de tout pays, dont le système démocratique est souvent pratiquement inexistant. Parce qu'il ne faut pas se faire des accroires, des pays démocratiques dans le monde, il y en a 15-20, mais après ça, là, ça commence à se compliquer un petit peu. Et il y a plusieurs pays qui, on l'a vu entre autres pendant le scandale de Salt Lake City, lors de la nomenclature de la ville de Salt Lake City, on a appris clairement, et ça a été prouvé, que des responsables du CIO, qui représentaient des pays, ben, ont accepté des scholarships de la part de prestigieuses universités américaines pour leurs enfants, en échange de leur vote pour choisir Salt Lake City comme ville candidate. Alors là, pour ces pays-là, peut-on les blâmer? Leur façon de fonctionner, c'est de recevoir des enveloppes comme vous et moi, on va acheter une pinte de lait au dépanneur. Alors, ils n'ont pas de système démocratique, ils n'ont pas de commission Charbonneau, l'autre s'en balance, sont très loin d'en avoir une. Mais ils ont droit de vote au sein du CIO et surtout, le Comité olympique international a toujours été en grande rivalité avec la Fédération internationale de football, de soccer, si vous préférez, à savoir quel est l'organisme le plus prestigieux sur Terre. Alors, le prestige attire aussi le type de candidat qui aime ce prestige et prendre son bain dans de l'ivoire. Mais justement, en étant perchés trop haut dans leur tour d'ivoire, ils ont absolument pas vu que le faste absolument déproportionné des Jeux de Sochi était pratiquement pour les conduire à leur perte. Eux, c'était construisez-en des stades à notre honneur. C'est fantastique, la vie est belle. Mais après ça, toutes les villes européennes ont dit, hey, nous autres, des stades là, à 53 milliards, là, vous allez vous les mettre où on pense, puis on veut pas savoir ça, on veut pas avoir la dette de ça. Et là, maintenant, soudainement, le CIO, à grands coups de communiqué de presse, disent qu'ils veulent réduire l'envergure du futur stade olympique de Tokyo parce qu'il coûte trop cher et ils font attention aux finances publiques. Écoutez, c'est pas rire du monde en pleine face, je sais pas c'est quoi. Et c'est extrêmement décevant de voir qu'un organisme déconnecté de la réalité comme le CIO, qui est pourtant capable d'aller chercher les meilleurs talents pour des télédiffusions extraordinaires de dernière technologie, soit complètement là, un peu à la merci de gens qui effectivement sont pas démocratiques et qui font flèche de tout bois. Alors, quand on installe un programme de dopage étatisé, on n'a qu'à regarder dans le passé pour savoir que la Russie n'est pas les premiers à avoir fait ça. On se rappelle très bien la caricature, les fameuses nageuses de l'Allemagne de l'Est de Montréal, là, qui étaient gros comme Hulk Hogan, qui étaient grosses comme Hulk Hogan. Et on n'a qu'à penser aussi à tous ces scandales d'haltérophilie bulgare aux Jeux dans les années 80, à Florence Griffith Joyner, la super sprinteuse américaine, qui avait de l'acné tout autour du visage, puis des poils qui lui poussaient sur les épaules, en plus de la mâchoire qui devenait aussi large qu'un bulldozer.
Le 100 mètres de Ben Johnson, où on dit que tout le monde était dopé à la ligne de départ, mais il y en a un qui a payé le prix pour tout le monde. C'est très intéressant. Quelle analyse! Et on sent que ça te pèse lourd sur le cœur. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or olympique toi-même, désabusé un petit peu par la façon dont tout ça fonctionne, déçu de la décision contre la Russie, mais pas contre nécessairement les athlètes russes. Est-ce qu'il y a un perdant là-dedans? Est-ce qu'il y a des perdants, Jean-Luc?
Moi, je trouve que tous les athlètes sont perdants là-dedans. Je ne sais pas comment fonctionne le dopage exactement, comme je vous ai dit, mais si un athlète se fait shooter de toutes les substances avant de quitter la Russie pour aller performer aux Jeux, évidemment, ça a été mentionné qu'ils soient sans entraîneur, sans rien, sans entourage, parce que l'entourage, c'est souvent le problème dans ces cas de dopage-là. Ben, est-ce qu'encore une fois, on va avoir des athlètes qui vont être rétrogradés? On n'a qu'à penser à le cas de notre haltérophile à Pékin, Christine, j'ai un blanc de mémoire malheureusement, là, qui a hérité de la médaille d'or, mais à Pékin, on se lamentait, les médias nationaux, comme quoi on n'avait pas de médaille, mais elle a gagné la première, Christine Gérard, elle a gagné la première médaille aux Jeux de Pékin très tôt dans les Jeux, mais battue par des athlètes dopés. Alors, ça a fait toute la différence. Alors moi, je pense que l'olympisme est perdant, les athlètes sont perdants dans tout ça, et c'est tellement dommage parce que chaque fois qu'on va voir un athlète russe performer au prochain jeu, on va toujours se demander, et moi je pense honnêtement là, que le dopage étatisé, entre autres une des choses qui a fait en sorte que la sanction est si faible, c'est que le dopage étatisé, c'est pas simplement le cas de la Russie, c'est le cas de bien d'autres nations, et je pense que la menace, elle est venue de Poutine qui a dit simplement à M. Bach, écoute, si tu nous chasses en nous donnant toute la disgrâce, mais moi je vais dénoncer tous les autres pays qui font le dopage étatisé et le tour de la foi avec tes Jeux olympiques. Et je pense que c'est ça qui a fait tourner toutes les choses.
Cette voix est celle de Jean-Luc Brassard, je le rappelle, médaillé d'or olympique. T'as déjà aussi été choisi comme chef de mission, tu avais démissionné, tu t'en vas en principe, mais pas en principe, mais tu t'en vas analyser les épreuves en bosse et saut aux Jeux en Corée du Sud dans quelques semaines d'ici. Est-ce que tu y vas reculons un peu, Jean-Luc, dans tout cet esprit-là, avec tout ce que tu viens de nous décrire?
Oui, ça a été un long processus. Et finalement, j'ai dit oui, c'est mon ami Dominique Gauthier qui m'a convaincu, mais encore aujourd'hui, oui, j'y vais à reculons parce que, premièrement, je trouve ça triste. La raison qui m'a fait accepter, devrais-je dire, en premier lieu, c'est parce que les Olympiques restent la seule opportunité de décrire mon sport en direct. Et ça, je trouve ça dommage parce que le ski acrobatique, c'est tellement un beau sport à regarder, duquel on est, les Canadiens, excessivement bons. Et la seule vitrine que ce sport a, c'est les Jeux olympiques. Alors, moi, j'y vais parce que c'est la chance de pouvoir parler de mon sport que j'aime décrire, que j'aime regarder, et que, heureusement, les cas de dopage, sont quasi inexistants parce que être fort comme Schwarzenegger, c'est plus une nuisance que d'autres choses. Ou prendre des bêta-bloquants comme les tireurs à l'arc, mais ça change pas grand-chose d'être trop smooth avant de descendre une pente de bosse.
Fait que tu vas te pincer le nez, puis tu vas aller regarder les skieurs faire des acrobaties, en quelque sorte, Jean-Luc.
Exactement.
Jean-Luc, je te remercie beaucoup de cet entretien. Encore une fois, on n'est jamais déçu quand on te tend un micro ou qu'on te pose une question. On a toujours des réponses, des opinions tranchantes. Jean-Luc, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Au plaisir de t'accueillir en studio pour un entretien. Puis t'as tellement de choses à dire qu'il faut se redonner rendez-vous très bientôt.
Excellent. C'est un rendez-vous, Mario.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Et à la prochaine.